Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, de recevoir un invité que vous connaissez bien, François Martin. François Martin, bonjour.
Bonjour mon cher ami.
Vous êtes,
bonjour monsieur Martin.
Entre autres choses, géopoliticien, journaliste, auteur de Le chaos du monde, la France dans le chaos du monde, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy en février dernier. Vous avez pendant 40 ans sillonné l'Afrique, l'Amérique latine, oui, pour faire du commerce agroalimentaire.
C'est ça.
Donc, vous êtes un peu comme Custine ou Tocqueville. Vous avez été un grand voyageur et vous, oui, écrivez à partir d'un ressenti, d'une expérience
plus
de terrain.
D'une expérience que d'un ressenti, effectivement.
Une expérience de terrain et dont vous considérez qu'elle manque à beaucoup de milieux académiques.
Beaucoup. Oui.
Des milieux académiques.
Tout en respectant énormément le travail qui est fait par les milieux académiques qui ont une approche de l'histoire qui est parfois excellente parce qu'ils, oui, vont rechercher les racines
quand
ils font bien leur travail. Oui,
oui, mais alors évidemment, quand on écrit sur le Moyen-Âge, on ne peut pas aller sur le terrain.
C'est ça.
On se contente des archives.
Et encore, il y a certains pays où on retrouve... Par exemple, j'ai été il y a quelques années en Birmanie. On retrouve en Birmanie cette espèce d'alliance entre la paysannerie d'une part et la religion d'autre part, qui est extrêmement féconde et fertile et qu'on retrouvait chez nous au Moyen-Âge. On n'en retrouve pas aujourd'hui d'exemple,
oui,
mais on en retrouve dans d'autres civilisations comme le bouddhisme birman, par exemple.
C'est ça, absolument. Alors c'est vrai, là vous faites brillamment le lien avec le Moyen-Âge.
Voilà, c'est ça.
Et vous êtes un fin connaisseur du Moyen-Âge européen et français.
J'aime beaucoup, et
de ses racines catholiques.
Voilà, tout à fait. C'est très important.
Et de l'influence de la religion catholique sur la modernité.
Oui, on ne peut absolument pas comprendre la modernité si on ne comprend pas ce choc absolu qui a été provoqué par la Révolution française, mais même avant, en fait, par une certaine forme de pensée, je dirais, laïciste plus que laïque, dont la France est enorgueillie, mais elle reste aujourd'hui, par rapport à d'autres pays latins que j'ai pu côtoyer, comme l'Espagne où j'ai vécu, il y a chez nous un espèce de divorce entre, je dirais, la modernité catholique et la modernité anti-catholique qui reste une espèce de guerre civile interne chez nous, qui reste la mère de tous les problèmes de la France. J'ouvre juste la porte parce que je pense, je ne sais pas si c'est l'objet de l'émission de développer
non, mais
ça, mais c'est fondamental. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ni la France ni les Français. Il y a une partie des Français et une partie de la classe politique française et une partie qui veut détruire l'autre.
Mmh.
Et ce ne sont pas les catholiques qui veulent détruire les autres, ce sont les autres. Voilà.
C'est vrai que le mouvement...
On voit ça nulle part. Hein. Dans aucun autre pays, il y a cette haine du Moyen-Âge, cette haine de la famille, cette haine du couple, cette haine de tout ce qui est marqué par le catholicisme dont notre civilisation est issue, cette haine de la paysannerie, cette haine profonde de tout ce qu'ont été les racines de la France, si ce n'est une espèce de forme de modernité satanique, je dirais.
Voilà.
Parce que quand il y a une haine contre la religion, même si Satan n'est pas présent, c'est quand même satanique. Voilà.
Oui. Les mouvements amorcés par Philippe le Bel, qui a fait souffleter le pape par son envoyé à Rome, est allé beaucoup trop loin dans les temps modernes.
Je ne sais pas si Philippe le Bel, c'était le cas, parce que de la part de Philippe le Bel, je pense que ça voulait exprimer une verticalité royale,
oui,
c'est-à-dire plus une sorte de, comment dire, une sorte de gallicanisme,
oui,
plus qu'une,
oui,
une modernité anti-catholique profonde.
C'est ça.
Je pense que ce n'était pas le cas. Mais après, ça a été avec... je me souviendrai toujours que le deuxième tome de l'histoire de la bourgeoisie de Régine Pernoud commence par un chapitre qui s'appelle « L'honnête homme ». À un moment donné, on s'est dit... La supériorité, c'est l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme qui a ses propres valeurs de travail, etc. Et à partir de là, il y a une espèce de surgissement du moi qui tend à rendre obsolète et à non seulement à ignorer, mais à mépriser tout le reste. On s'habille en noir. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça.
Oui, le,
je pense
le
que ça naît avec la notion d'honnêteté.
Le vêtement noir commence dès le XVIIe siècle, en fait.
C'est ça. Et ce que les gens ne savent pas, et ce que Régine Père nous précise, c'est que dans le défilé à Versailles des corps constitués, le tiers-État, quand ils vont...
Il était habillé de noir.
Est habillé que de noir. Donc, il y a un laboureur... En tout et pour tout, dans toute la délégation, ils sont plusieurs centaines.
C'est-à-dire sont des bourgeois.
Ce sont tous des clercs, de notaires, des juges, des bourgeois, tout à fait. Il n'y a pas un seul paysan.
Quasiment pas
quand
de paysan,
on parle d'une révolution paysanne, elle est tout sauf paysanne. Elle est pas
du
tout
paysan, pas d'artisan, pas de... Voilà. Oui, très intéressant.
Voilà, donc il n'y en a qu'un qui n'est pas habillé en noir.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le noir apparaît dans les vêtements sous Louis XIV, pratiquement.
Ou avant, je pense même. Enfin, je ne sais pas. Ça,
enfin, se propage avec la montée en puissance économique de la bourgeoisie.
Bah, bien sûr, c'est évident.
La noblesse portait des vêtements colorés.
Bien sûr.
La paysannerie aussi.
Et des chapeaux, etc.
Et la paysannerie aussi,
qu'on a essayé ensuite de détruire, parce que la paysannerie est, je dirais, dans l'imaginaire collectif, la partie la plus catholique de toutes, puisque notre civilisation est d'abord une civilisation qui est à la fois catholique et paysanne au départ. Hein.
C'est ça.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on veut briser le clergé en premier lieu, parce que le haut clergé, disons, confère Talleyrand et en gros entre les pattes de la haute bourgeoisie est très proche du pouvoir, mais c'est tout le petit clergé qui est à la fois l'avocat, le service social et le confident de la paysannerie. Donc en détruisant ce petit clergé, en lui faisant signer
Le concordat.
Pas le concordat, mais avant le concordat, en lui faisant signer document civil, la constitution civile du clergé, on l'oblige et en le chassant, s'il le refuse, il est obligé de s'exiler dans sa famille en Bretagne ou ailleurs, et donc il abandonne la paysannerie qui reste alors à la disposition de la haute bourgeoisie. Pour en faire ou des péons agricoles, puisque comme on sait, le but n'est pas de développer ça, mais c'est quand même la réalité. En face de l'abandon des privilèges, je crois que c'est Régine Pernoud qui explique aussi, ou alors c'est Jean Dumont, l'historien Jean Dumont, que en face de l'abandon des privilèges, qui étaient en fait des privilèges, qui étaient des sommes essentiellement, qui étaient dues par les paysans au seigneur, mais qui était, je dirais, de la monnaie de singe, parce que comme ils ne pouvaient pas rembourser, ça se transmettait de génération en génération, donc ça valait rien. Donc en fait, dans la célèbre nuit du 4 août qu'on a présentée comme le mouvement social de la bonté des riches envers les pauvres par excellence pour justifier la Révolution française, en fait, les privilégiés ont abandonné un privilège qui était d'une monnaie de singe, mais on récupérait en contrepartie ce qu'on n'y dit pas, l'abandon du droit de vénpature, du droit de glanage, du droit de fanage, tout un tas de droits que les paysans avaient sur les terres de leurs seigneurs, qui empêchaient les seigneurs de clôturer les terres et d'utiliser les paysans comme des péons agricoles, toi je te paye une journée, toi je te paye 3 jours, toi je te prends pas, etc. Oui. Comme c'était le cas sur le modèle anglais, avec les enclosures. Et on a fait, à partir de là, on a modélisé une agriculture industrialisée, je puis dire, alors qu'au départ, c'était un système social de cohabitation. Donc on a détruit ça. Et c'est la nuit du 4 août qui a détruit ça, mais ça on le dit pas.
Ah, oui, voilà. Oui, tout à fait.
Donc on l'a transformé et Ce que je dis toujours, c'est que lorsqu'on a vendu les biens du clergé et les biens des émigrés, pourquoi, qui représentaient 10% en gros pour renflouer l'État à l'époque, oui. Puisque le pays n'était pas pauvre, mais l'État était très appauvri suite à la politique de Necker, on ne le dit pas non plus. Et à ce moment-là, quand on a vendu ces terres, les paysans ont demandé qu'on morcelle les terres pour qu'eux puissent racheter des terres à leur main, avec des petits biens. Et en fait, la Convention a refusé. Donc on a conservé des grandes terres que seuls les grands bourgeois pouvaient acheter. Donc les paysans ont demandé, puisque on ne peut pas, vous n'acceptez pas de morceler les terres, est-ce que nous pouvons nous syndiquer pour acheter des grandes terres à 30, 40, 50, 100, et puis ensuite les morceler nous-mêmes entre nous. Et ça a été refusé. De nouveau refusé.
Ben, ça a été évidemment un peu partout comme ça en Europe, d'une manière ou d'une autre.
Voilà.
C'est qu'on a prélevé sur le monde agricole les plus-values nécessaires au financement de la révolution industrielle.
Bien entendu, c'est ça. Et le modèle qu'on a vu à ce moment-là, c'est-à-dire faire des paysans, des individus déracinés, désaffiliés et abandonnés, si possible, dans le pourtour des villes pour pouvoir être utilisés. C'est le modèle qui a été utilisé par la Turquie, par l'Angleterre, Turquie après la guerre Iran-Irak.
Et même l'Italie.
Au 19e, c'est le modèle Piémont. Classique. C'est pour ça que les pays qui ont refusé ce modèle-là se comptent sur les doigts d'une main. Et ceux qui ont voulu commencer par développer d'abord l'agriculture pour sourcer une catégorie de population qui s'enrichissait progressivement par son propre travail au lieu d'être payé par des capitalistes, comme c'est le cas de la Tunisie de Ben Ali, ce qu'on ne sait pas, Ben Ali a refusé justement le système de la destruction de l'agriculture pour enrichir les capitalistes. Donc il y a un certain nombre de pays, il y en a assez peu, qui n'ont pas voulu ce modèle.
Il est vrai que l'agriculture française, à l'époque de la Révolution, était tellement prévalente et abondante, et tellement grande source de richesse qu'évidemment, ça excitait la voracité des bourgeois preneurs de capital pour faire de l'industrie.
Bien entendu. D'autant qu'on voyait arriver, à ce moment-là, la machine à vapeur, etc. Enfin, les perspectives à terme de l'industrie étaient phénoménales. Absolument phénoménales. On s'est dit, qui peut-on tondre? Il y avait deux choses à faire. La deuxième, c'était de tondre la paysannerie. Et la première, c'était, de chasser les bergers qui étaient le petit clergé.
Oui, voilà.
Voilà. Et là, à ce moment-là, la révolution a été complète. Et pour terminer ça, il n'y a jamais eu la véritable révolution qu'aurait voulu une révolution,
populaire.
Une révolution populaire, c'est-à-dire une réforme agraire qui permette aux paysans, en grande masse, d'acheter les terres et de pouvoir les cultiver dans de bonnes conditions. C'est le contraire qui a été fait. Et celui qui n'a jamais cessé de demander la réforme agraire, qui est, semble-t-il, c'est Gracchus Babeuf, qui est, semble-t-il, le parangon de la Révolution française aux yeux des communistes russes. Donc, eux savaient que, le révolutionnaire populaire, c'était Babeuf.
Et alors, on voit qu'en Union soviétique,
semble-t-il, ouais.
C'est la dékoulakisation qui a permis de financer l'expansion industrielle plans quinquennaux de Staline.
C'est ça.
C'est-à-dire, on a toujours, plus ou moins, sauf en Tunisie, vous dites, mais ce même mécanisme de spoliation du monde agricole
tout
pour financer les essors industriels.
C'est tellement simple à comprendre, je dirais.
C'est vrai.
Où se trouve le mouton?
Et voilà. Mais alors, nous allons nous occuper des moutons d'aujourd'hui, parce qu'en effet, nous avons alors une grande crise géopolitique au Moyen-Orient, et l'économie mondiale et le monde sont suspendus aux pulsions qui traversent l'esprit du président américain.
Oui, c'est ça. Alors, il faut mettre un peu d'ordre là-dedans parce que c'est facile de dire il est fou ou il est, il voit pas clair ou il est, enfin, s'il est devenu deux fois président de la République, c'est quand même, il a plus que deux neurones dans le cerveau.
Moi,
donc, il y a quand même une certaine forme de logique dans sa façon de faire.
Moi, je parle de principe de Peter, niveau d'incompétence, ce qui n'est pas du tout la
même
chose.
Alors, je rentrerai pas dans ce débat parce que je suis incapable moi-même de fixer les limites du principe de Peter. Par contre, je pense que je peux, à partir de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, rentrer dans un certain nombre d'arcanes de son cerveau pour dire voilà ce qu'il peut, voilà ce qu'il veut ou voilà ce qu'il...
Voilà, alors il y a les intentions et puis
il y a
les actes et le désastre que certaines auxquels certaines intentions peuvent conduire.
Alors pour l'instant, je dirais le désastre n'est pas encore avéré, mais ce n'est pas forcément à cause de lui, mais on va rentrer dans cette mécanique. Alors d'abord, sur ses intentions au départ, moi je remarque quand même une chose, et ça, j'entends pas ce constat, c'est que quand il arrive au pouvoir, la deuxième fois, le canal de Panama est aux mains des Chinois.
Oui.
Bon, la Venezuela est aux mains des Chinois.
Oui.
Cuba est aux mains des Russes et des Chinois.
Oui.
L'Afrique est aux mains des Chinois. Mmh. Le Moyen-Orient est en train d'être mis aux mains des Chinois par l'accord, le rapprochement qui n'est pas encore un accord.
Iran-Arabie Saoudite.
Iran-Arabie Saoudite, qui est fondamental à comprendre. L'Asie est aux mains des Chinois. L'industrie totalement du monde est aux mains des Chinois. Mmh. 85% des terres rares sont aux mains des Chinois.
Oui.
Pour moi, à ce moment-là, la victime, si je puis dire, ou la proie, c'est les États-Unis.
Oui.
Et le prédateur, c'est la Chine.
Oui.
Enfin, ils ont tout.
Mais alors,
donc, Trump essaye maladroitement, je dirais,
voilà.
Mais il a été mandaté pour sortir de cette situation.
Oui.
Alors d'abord, il faut dire que les cinglés, pour moi, c'est pas Trump au départ. Ce sont ceux qui ont été au pouvoir avant lui, c'est-à-dire les 20 ans, en gros, à part la présidence, la première présidence Trump, qui a été un peu cassée, je dirais, par ses ennemis démocrates. Mais je dirais qu'ont fait les démocrates pendant 20 ans pour mettre les États-Unis dans cette situation. Alors,
voilà.
Je suis au départ sidéré par le fait que lors de son interview par Megyn Kelly, le 20 janvier, le 30 janvier, c'est-à-dire 10 jours après avoir été nommé, Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, dit « Je vous laisse, je vais prendre l'avion pour aller à Panama pour essayer de résoudre cette situation », c'est-à-dire récupérer un canal qui a été vendu aux Chinois alors même que les Américains ont fait une guerre pour le conserver. C'est ahurissant.
Mais alors, je voudrais vous poser une question apparemment simple et au fond compliquée. Pensez-vous que si Trump avait prévu la suite concernant l'attaque de l'Iran, pensez-vous qu'il l'aurait quand même lancée?
Alors, il faut déjà se dire une chose, c'est que si on voit le contexte tel qu'il est, c'est-à-dire les pas... Ah, mais les Américains, les grands ultracolonialistes contre les gentils Chinois et les gentils Russes, etc., c'est pas ça. C'est, à mon avis, même l'inverse, d'une certaine façon. Donc, je comprends, d'une certaine façon, le contexte dans lequel les Américains voient les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait les choses comme il faut pour s'en sortir. Alors, pour répondre ensuite à votre question... En ce qui concerne l'Iran, puisqu'on vient sur l'Iran, je dirais que les motivations des États-Unis pour cette guerre d'Iran me paraissent autre chose que la simple prédation colonialiste. Ça, c'est l'explication simpliste. Mais à mon avis, elle n'est pas pertinente. Par contre, il y a deux explications qui me semblent pertinentes. La première... c'est celle que Trump se retrouve totalement démuni, en particulier en ce qui concerne les terres rares, dont il a impérativement besoin pour son industrie militaire et pour son industrie privée. Son industrie privée, les Chinois se servent du fait qu'ils maîtrisent les terres rares pour attirer les industriels américains sur le territoire chinois, donc de vider les États-Unis de leur de leur industrie. Oui. Ce qui fait que si les États-Unis mettent des droits de douane aux Chinois pour obliger les industriels américains de revenir sur le territoire américain, mais que ce faisant, ils n'ont pas de terres rares, ça ne sert à rien du tout. Et je rappelle qu'on va parler après du sommet. Tous les hommes d'affaires qui étaient dans la délégation de Trump, ils sont arrivés avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il n'y avait qu'à voir la tête d'Elon Musk, parce qu'ils n'ont pas attendu Trump pour aller travailler en Chine. Ils sont tous en Chine. Et la plus grosse usine de Tesla, elle est en Chine. Donc, il ne les a pas amenés pour dire « Regardez, avec moi, vous allez faire du business avec les Chinois. » Il les a ramenés pour essayer de les contrôler d'une certaine façon. En fait, il ne les contrôle pas du tout. Oui, alors, voilà. pour revenir aux motivations de Trump pour attaquer l'Iran, je dirais que la première, c'est celle de se dire « J'ai impérativement besoin d'un levier puissant pour essayer d'imposer aux Chinois une véritable négociation sur les terres rares. » Et ce, d'autant plus que je vais les voir dans un mois, dans 15 jours, dans 3 jours, etc. Ça, c'est la première motivation. Et une deuxième motivation que j'ai découverte dans une vidéo de Mohamed Marandi, l'historien iranien que j'ai vu, c'est surtout la mise en œuvre ou l'officialisation qui n'a pas encore été faite, mais qui aurait été faite, à mon avis, très rapidement, d'un accord d'association militaire entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui officialise en fait le basculement de l'Arabie Saoudite et donc de l'ancien Moyen-Orient, de l'ensemble du Moyen-Orient, dans l'orbite des BRICS et dans l'orbite chinois. Moi, je suis américain, je me dis, je n'ai pas d'autre solution que d'essayer de taper sur l'Iran pour essayer de casser cet accord, parce que pour moi, il est totalement désastreux, il me fait perdre la totalité du Moyen-Orient.
Alors,
ça, c'est sur le plan stratégique. Maintenant, il reste la tactique. Autant je pense que la stratégie a du sens, autant je pense que la tactique, elle est conforme à la vision de la tactique de Trump habituelle, c'est-à-dire... J'essaye et ça va marcher, je vais gagner.
Oui.
C'est ça qui était stupide. Voilà, parce que tu as beau avoir un danger absolu, si tu penses que tes chances de réussir, si tu confrontes, elles sont nulles, à ce moment-là, tu fais comme Poutine au moment de la cérémonie du 9 mai, comme dit l'autre... embrasse la main que tu ne peux couper.
Ouais.
C'est-à-dire, à ce moment-là, tu dis « Je ne peux pas éliminer le risque que ce salopard de Zelensky, bien qu'il soit engagé à ne pas le faire, m'envoie une dizaine de drones sur ma manifestation du 9 mai, qui est l'affirmation de la grandeur de mon pays. À ce moment-là, je vais faire momentanément une cérémonie au minimum. » Et puis, je referai une magnifique cérémonie le jour où Zelensky aura perdu.
Oui, oui.
Défini. Donc, ça, de la part de Poutine, c'est une capacité, je dirais, à faire passer ses objectifs politiques et son caractère au-dessus de son ego. Parce que son ego, il dit, mais non, cette cérémonie me représente, il faut que je fasse une belle cérémonie. Mais c'était trop dangereux. Donc, il réduit la voilure et puis... Il rouvrira l'année prochaine, si, ça c'est certain. Mais lui est capable de faire passer son ego dans sa poche quand ses objectifs politiques l'exigent.
Oui,
alors que Trump ne sait pas.
C'est ça. Et alors ?
Et le problème, et donc le problème est là.
Oui, le problème est là, et il est énorme le problème, parce que comme c'est un grand narcissique, comme chacun sait...
Sont tous des narcissiques, pour moi.
Oui,
mais voilà. Seulement certains ont un caractère qui est capable de mettre le narcissisme dans sa poche quand il le faut. C'est ça les grands.
Je compare souvent Poutine à Louis XI.
Oui.
Ils ont le même tempérament.
Oui,
d'ailleurs,
absolument.
Enfin, psychologiquement, il y a une certaine ressemblance.
Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord.
Et je compare
ça,
Trump à Charles le Téméraire.
Ah ben, on en a souvent parlé, mais je suis assez d'accord. Mais Charles le Téméraire n'était pas ni un mauvais, ni un petit. Hein.
Non, mais ce n'était pas un génie politique non plus.
C'est ça.
Louis XI, oui.
Voilà.
Et Poutine aussi,
voilà.
C'est un génie politique.
Et l'autre caractéristique qui est parallèle à ça, c'est la capacité de certains dirigeants, et c'est ceux qui restent véritablement, à jouer avec le temps, à concevoir le temps long. Mmh. Charles de Gaulle était capable de faire ça,
oui.
Bourguiba était capable de faire ça, Rawlings a été capable de faire ça, Mao n'en parlons pas, Deng Xiaoping n'en parlons pas, Xi semble-t-il, Poutine également... Le grand, l'extraordinaire, comment ça s'appelle, Clovis, a été capable de ça. Louis XI a été capable de ça. Charles VII a été capable de ça. C'est ceux qui ont su attendre le bon moment, patiemment. Voilà, c'est ça les grands.
Et je dirais Louis XIII, qu'on oublie toujours.
Louis XIII
a quand même eu l'immense génie d'imposer Richelieu à sa mère.
Vauban.
Et Vauban.
Et avec qui il a fait un duo remarquable.
Absolument.
Louis XIII, voilà. Richelieu.
Et c'est là où on tombe sur cette lacune de l'analyse politique, géopolitique moderne, c'est qu'on ne prend jamais en compte le tempérament des dirigeants.
Voilà, c'est ça.
Or, c'est essentiel.
Tout à fait.
Pourquoi Trump ne peut pas prendre en compte le long terme ? Pour un psychologue et un morphopsychologue, ça crève les yeux. Il est plus primaire que secondaire. Il est plus impulsif.
Oui, mais il y a des primaires qui sont bons aussi. Il y a des primaires qui sont bons. Hein.
Non,
moi,
mais
j'ai du mal à rentrer dans les analyses psychologiques parce que, d'abord, ce n'est pas mon métier. Donc, moi, regarde les faits. Et il faut dire aussi, à son corps défendant, que c'est malgré tout... un type qui a quand même des intuitions qui ne sont pas mauvaises.
Pas,
regarde
mais
la création de son parti, c'est 95 ou 96, il commence à ce moment-là. C'était quand même bien vu, cette création des magas, une idée qui reprend de Reagan à cette époque. Et je développe ça dans mon livre, donc... ce n'est pas un imbécile.
Il a du flair politique.
Surtout,
il a du flair, j'allais presque dire, politicien.
Et il a une durée d'action quand même très limitée. C'est ça aussi le problème. Quatre ans,
c'est vrai.
Ça passe très vite.
Et je rajouterais encore là aussi que lorsqu'un homme politique parle, il faut se demander toujours à qui parle-t-il. Alors, ce qu'il dit a des conséquences aussi chez ceux pour qui il ne parle pas. Mais fondamentalement, tout son discours politique qui consiste à dire « je vais les ramener à l'âge de pierre, je vais les frapper, etc. etc. », il ne nous est pas destiné à nous, ni aux Iraniens, ni à qui que ce soit d'autre, qu'à ses propres électeurs. Et il faut quand même dire que l'exécution politique de Thomas Massy... il y a quelques jours, est quand même le signe du fait que Trump n'est pas aujourd'hui aux abois dans son propre parti, comme certains veulent le dire. Il faut aussi faire attention à la propagande là-dedans. Il n'est pas si mauvais que ça quand il dit « espèce de salaud, je vais vous détruire », etc. Il est reçu par une partie de l'opinion américaine qui adore ça.
Qui écoute
ce genre de discours-là.
Et là on arrive
par contre, il se discrédite aux yeux du monde.
Arrive à une problématique qui est la suivante. Louis XI n'aurait pas été un animal électoral.
Non.
Louis XI n'aurait pas été une bête de scène.
Non.
Non.
Richelieu, pareil.
C'est ça.
La démocratie recrute des saltimbanques, des bêtes de scène.
Elle a recruté De Gaulle aussi. Hein.
Oui, alors De Gaulle...
Sa première élection n'était pas si démocratique que ça.
Non, et la seconde a été un peu laborieuse.
C'est ça.
En 65, puisque mis en ballottage, il a pensé à
Poutine est élu démocratiquement, hein, je suis désolé. Hein.
Oui.
Oui, mais enfin dans des conditions un peu, un peu particulières. Enfin,
on voit... Je pense que comment dire... ses ennemis ou ses de l'intérieur ou ses concurrents potentiels sont, euh, ne sont pas inutiles, ne sont pas des c'est-à-dire qu'il les tient bien en cage,
oui.
Politiquement parlant.
Voilà.
Et je rappelle que celui dont on l'Occident cherche toujours à faire à sortir du chapeau des héros de la résistance, que ce soit anti-Poutine ou anti, etc., etc. Celui qui est mort là, comment il s'appelle, en prison, dont on avait fait le
Navalny
aux dernières élections présidentielles où il s'est présenté, il avait fait 2%. Donc, c'était pas véritablement... Il avait fait 10% à la mairie de Moscou. Hein.
Oui,
mais il a
mais
fait 2%.
Grosso modo, bon. les qualités pour se faire élire, grosso modo, sont pas les mêmes qualités que celles pour faire... pour diriger un État et pour faire de haute géopolitique.
Rawlings s'est fait battre. Rawlings, quand il a instauré... Après 20 ans, je crois, de dictature, quand il a dit « il faudra que je redresse le pays et après, je changerai la constitution et je ferai une élection démocratique », il a dit. Et quand il a mis en place, il a perdu.
C'est-à-dire
quand
que...
il a mis en place le multipartisme, parce que je crois que dans un premier temps, il a été élu, mais après, il a perdu. Pour moi, la raison pour laquelle je comprends de ça, c'est qu'en fait, ce que nous appelons démocratie est en fait un système qui survalorise le pouvoir bourgeois au détriment du pouvoir populaire. Les pays où j'ai été, la centaine de pays où je suis allé, avaient très peu de systèmes démocratiques et le peuple s'en arrangeait extrêmement bien parce qu'il concevait qu'un pouvoir fort pouvait lui apporter, quand c'est le cas, une certaine forme de verticalité du pouvoir qui garantit ce dont il a besoin, lui, c'est-à-dire l'ordre en premier lieu, parce que le désordre dessert d'abord les petits. Donc l'ordre est une valeur extraordinairement importante. La preuve, c'est que notre système français aujourd'hui, qui est une parodie de démocratie s'arrange extrêmement bien du désordre.
Nous sommes dans un désordre.
Qui dessert absolument pas la haute classe bourgeoise qui s'en arrange extrêmement bien. Par contre, les petits, eux, sont ceux qui souffrent de ça. Donc, l'ordre et la justice sont les
Chine
deux valeurs.
L'illustration de ça.
Bien sûr.
Nous vivons un désordre incommensurable.
Tant que les Chinois vivent dans l'ordre et se rendent compte parfaitement de ce qu'aurait une Chine désordonnée, ils plébiscitent le pouvoir.
C'est ça.
Mais alors, oui, forcément.
Pour en revenir à...
Donc, c'est un système, la démocratie est un système, je dirais, qui a été inventé pour favoriser, pour survaloriser... le pouvoir de la bourgeoisie. Donc, dans un système, je dirais, bourgeois, qui flirte avec le système oligarchique, qui flirte avec l'oligarchie, les individualités verticales et fortes, comme ceux dont tu parles, sont automatiquement éliminées par le système, sauf quand elles sont capables de jouer avec le système en se faisant... marionnettes en attendant d'échapper aux marionnettistes.
C'est le cas de
Poutine. C'est ce qu'a fait De Gaulle, c'est ce qu'a fait Poutine. C'est, à mon avis, ce qu'essaye de faire Mélenchon aujourd'hui.
Oui. Alors,
qui est, à mon avis, un dictateur dans l'âme absolue, mais qui essaye de se faire passer pour quelqu'un qui veut la justice pour le peuple, etc. Dès qu'il aura le pouvoir, il n'y aura plus de pouvoir pour personne.
Voilà.
Alors, je le vois venir à un kilomètre.
Ah oui, complètement. S'il arrive au pouvoir, ça sera Robespierre. Hein.
Voilà, c'est ça, à peu près. Je crois que c'est à peu près bien résumé.
Et donc, cette aventure moyen-orientale, c'est devenu un piège terrible
pour
les États-Unis.
C'est très mal joué de la part de Trump parce qu'il s'est fait vendre et il a suivi son intuition parce que Netanyahou lui a dit « tu verras ». Ça va être un Venezuela bis.
Voilà.
Tu vas prendre le pouvoir en 3 jours.
Voilà.
Il s'est fait complètement rouler. D'ailleurs, semble-t-il aujourd'hui, il en est absolument conscient aujourd'hui, mais c'est trop tard.
C'est pour ça que
j'ai dit
qu'il avait su la
suite. Et puis, il s'est dit, si je réussis ça, je sors du truc, hop, et je vais voir que si 15 jours après, en disant, tu vois,
oui.
C'est à moi, l'Iran, c'est à moi. Maintenant, tu veux du pétrole, tu me donnes des terres. Enfin, oui, il s'est dit, voilà, je vais être le génie voilà. des hôtes de ce bois.
Et il a pris l'Iran pour un quelconque pays arabe.
Voilà, exactement. Comme un Venezuela.
Les pays arabes sont tout de même régis par des règles tribales. Voilà. Que ce soit l'Irak, la Libye, etc. Donc, quand on décapite la direction, le régime s'effondre. Ça a été le cas pour Kadhafi, par exemple.
Oui, tout à fait.
Et il n'a pas compris ce qu'est la Perse. C'est pour ça que je parle de niveau d'incompétence.
L'autre chose, je pense, qui va dans ce sens-là, c'est le fait qu'il manque aujourd'hui, à mon avis, dramatiquement, mais totalement dramatiquement, de véritables compétences à sa main et à sa disposition en matière d'analyse et en matière de diplomatie.
Il les écarte.
Parce qu'il pense que ceux qui ont la compétence lui mentent parce qu'ils sont inféodés au régime précédent. Ce sont des démocrates.
Oui, puis il y a...
Et il n'arrive pas à penser, il n'arrive pas à faire la part des choses parce que lui-même n'a pas la culture suffisante de se dire parce que Chas Freeman par exemple qui est un grand esprit et un grand ambassadeur etc n'est pas forcément je veux dire un démocrate MacGregor n'est pas un démocrate il dispose quand même je pense dans son camp mais aujourd'hui dans son entourage enfin ça n'a aucun sens.
Mais cet entourage, il l'a choisi.
Il n'utilise que son gendre et son copain.
Il a choisi son entourage. C'est lui qui l'a choisi,
oui,
son entourage.
Oui, d'accord.
Oui, il n'est pas tombé du ciel, l'entourage. C'est lui qui l'a choisi.
Oui, non, mais on est d'accord. Je pense qu'il y a profondément. Il se méfie extraordinairement des compétents parce qu'il ne leur fait pas confiance.
Mais MacGregor, par exemple, ne peut pas être soupçonné de jouer pour des intérêts étrangers à la nation américaine, etc. Qu'est-ce qui l'empêchait de prendre MacGregor? Bon. Seulement MacGregor lui aurait dit « il ne faut pas y aller, il ne faut pas attaquer l'Iran ». Il aurait dit « bon, ben virez-moi ce connard ». Voilà, c'est tout. Enfin bon, il faut évaluer la psychologie de Trump et sa manière de fonctionner, car tout est là.
Non, mais j'essaye de le faire aussi, mais là où je dirais tout n'est pas là, parce qu'il y a aussi le substrat géopolitique qui fait partie également des contraintes dans lesquelles il est. Quand je dis qu'il perçoit l'Amérique comme assiégée par la Chine... Je pense que ça, c'est un sentiment.
Mais c'est pour ça que Louis XI, c'est ma référence historique, Louis XI, il était dans une position bien pire que les États-Unis. Face à Charles le Téméraire et à la Bourgogne, qui étaient en réalité une superpuissance gigantesque par rapport à cette France, qui était encore une chose assez modeste.
Oui, tout à fait.
Et Louis XI a composé avec des contraintes qui étaient bien pires encore que celles des États-Unis aujourd'hui. Seulement pour faire ça, il faut avoir des nerfs, faut être patient, il faut être le contraire d'un émotif, il faut être le contraire d'un impulsif, et tout ce que n'est pas Trump. Il faut être Louis XI. Il ne faut pas être simplement un impulsif manipulable par Netanyahou et le chef du Mossad. Louis XI n'aurait jamais été manipulé par Netanyahou et le chef du Mossad.
Non, il aurait dit « je vais attendre », mais il n'aurait pas eu une élection 6 mois plus tard.
Eh bien oui, parce que c'est ce que je dis, les impératifs électoraux de la démocratie sélectionnent des individus qui ne sont absolument pas faits pour la haute géopolitique et pour la direction d'un État.
Non, puisque ce sont au départ essentiellement les représentants d'une classe oligarchique qui est maîtresse du pouvoir.
Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est une question de tempérament. On n'imagine pas Louis XI faisant les missions, vous êtes viré. On n'imagine pas Louis XI en train de faire le pitre sur une estrade.
Non, mais comparaison n'est pas forcément raison. Enfin, dans un cas, on est au Moyen-Âge, dans l'autre
c'est pareil.
En 2026, c'est quand même pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de télé à l'époque.
Non, mais Il faut comprendre. Oui, il n'y a pas de télé à l'époque, mais il faut comprendre. Si on transpose Louis XI aujourd'hui, son tempérament l'aurait écarté. C'est Poutine. Louis XI, c'est Poutine.
Poutine qu'on accuse d'être un Hitler parce qu'il s'est jeté sur la pauvre petite Ukraine, a attendu 22 ans.
Mais Poutine...
Alors que je rappelle que Sergueï Glazyev, qui est son conseiller, avait écrit il y a presque 20 ans, et en cela, il représentait l'ensemble des penseurs géopoliticiens russes. La Troisième Guerre mondiale aura lieu et les Américains la perdront.
Voilà.
Il avait écrit ça. Donc tout le monde savait que cette guerre d'Ukraine serait inévitable. Et ils s'y sont préparés pendant 20 ans.
Imaginons que Poutine soit né américain et qu'il ait voulu faire une carrière politique aux États-Unis. Il aurait été un personnage de deuxième ou troisième zone. Pourquoi ?
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une bête de scène.
Oui, oui, non, mais c'est clair.
Alors que Trump est une bête de scène.
Oui, tout à fait, on est d'accord, on est d'accord.
C'est pour ça que je compare Louis XI à Poutine.
Oui, on est bien d'accord avec ça.
Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que l'Empire américain, comme tout empire déclinant, réagit par la guerre.
Et
Trump est allé...
J'ai moi-même écrit dans mon livre que... J'ai repris Mersheimer qui dit lui-même que le propre, qui reprend le propre du piège de Thucydide en disant que pour échapper au piège de Thucydide, le numéro un doit précisément éviter la guerre, larguer les parties de son empire qui lui coûtent excessivement cher et qui le vident de ses forces et remettre ses forces dans la reconstruction de sa puissance intérieure, c'est-à-dire essentiellement sa technologie, sa formation et son commerce. Parce que c'est à partir de là qu'il tire les forces qui lui permettent ensuite son expansion. C'est ce que De Gaulle a fait.
Oui.
C'est ce que Trump avait commencé à faire jusqu'à ce qu'on lui vende l'affaire iranienne.
Voilà.
Par contre, ce qu'il faut, c'est se demander qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il peut être amené à faire.
Je crois que c'est assez facile à prévoir ce qu'il va être amené à faire. Les Iraniens, comme on voit, ils ne veulent pas passer par les fourches codines qui prétendent leur imposer pour conclure un accord. En résultat, il va reprendre le gros marteau et taper à nouveau sur l'Iran.
Alors, ça, ce n'est pas si simple. Je ne suis pas absolument sûr de ça. Disons qu'au départ, ce qu'on peut dire, on peut reprendre la réflexion tout à fait drôle de Jeffrey Sachs qui dit « quand on est dans un trou, règle numéro un, cessez de creuser ».
Eh bien lui, il fait l'inverse.
Il dit ça pour commencer. Donc il a trois solutions, à mon avis. La première, c'est de prendre sa pelle, sortir du trou pendant qu'il est encore temps et foutre le camp et rentrer chez lui, en laissant éventuellement une partie de sa flotte pour dire « je continue le blocus », etc. Parce qu'il aime bien les blocus et puis ça lui coûte moins cher. Donc, c'est la première. Et ça lui permet de sortir de là et de s'occuper d'autre chose parce qu'il est toujours dans sa campagne de médiatisation et il lui faut un épisode par mois jusqu'au midterms de... une nouvelle dans la série télévisée qui l'emmène au midterms et il aimerait bien passer à Cuba et il n'y arrive pas parce qu'il est pris par la série iranienne qui prend trop d'épisodes.
Ben oui, mais il est bloqué.
Alors, ça,
par
c'est
l'histoire
la première,
d'Hormuz.
Première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est d'envoyer les troupes au sol.
Oh ben, là, pas question. Oui.
Ceux qui disent ça. Tout le monde reconnaît qu'il sera vietnamisé s'il fait ça.
Oui.
Il aura en face de lui 1 million d'Iraniens qui seront dans leurs montagnes, sur leurs terres. S'il fait ça, il est cuit.
Voilà.
La troisième, c'est celle qui est... c'est de se remettre à bombarder.
Ouais,
c'est
il va
de se remettre à bombarder. Mais ceux qui disent ça et qui considèrent ça comme relativement probable ne se posent jamais la question de la rétorsion possible des Iraniens, qui me paraît évidente. C'est-à-dire, les Iraniens vont bombarder aussi, Par contre, les Américains, eux, n'ont pas d'autre solution que d'aller bombarder les équipements iraniens, etc. Et à ce moment-là, les Iraniens feront ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici, c'est-à-dire ils sont restés dans le réversible quand les Américains étaient dans le réversible, et ils passeront à l'irréversible le jour où les Américains, et la première chose qu'ils feront, c'est taper les systèmes de dessalement d'eau en premier lieu.
Oui.
Comme ils sont dans la banque avec le coffre et ils ont les otages et ils demandent avec le porte-voix qu'on leur livre la voiture pour les emmener à l'aéroport, le premier otage qui a le pistolet sur la tempe, c'est les Émirats Arabes Unis.
Ben voilà.
Ils tueront les Émirats Arabes Unis,
ouais,
qui vont se retrouver avec non seulement le 1,5 million d'étrangers qui vont foutre le camp dans les autres pays ou qui vont s'en aller, et Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ras El Khaïma, etc., ça va se retrouver du jour au lendemain, il n'y aura plus personne.
Oui, oui.
Bah, je crois qu'on... Et s'ils font ça, c'est le cataclysme.
Bah, je crois qu'on va
Or,
vers ça.
Or, le système américain fonctionne aujourd'hui de telle sorte qu'ils sont en train de creuser pour ramasser de l'or au bord d'un précipice.
Voilà.
Parce que comme les prix sont très chers, ils gagnent beaucoup d'argent. La bourse est très élevée, mais on ne sait pas quand est-ce que la bourse va se retourner.
Voilà.
Et ça, C'est Warren Buffett qui dit le problème de la bourse, c'est que c'est le bal de Cendrillon, mais il n'y a pas de pendule.
Voilà.
Donc, à un moment donné, tout le monde se trouve à poil, mais personne n'a noté, n'a dit qu'il était minuit. Donc, c'est très dangereux.
Chers auditeurs, passer un message avant de continuer.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Chers auditeurs, vous écoutez le Libre Journal de la Crise. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui M. François Martin. Je rappelle que M. François Martin est géopoliticien, journaliste et auteur de l'ouvrage « Le chaos du monde, la France dans le chaos du monde ». Un ouvrage qui est paru en février 2026 aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Chers auditeurs, je me permets également de vous dire que cette émission sera rediffusée ce soir à minuit, à 0h, et demain, samedi 23 mai, nous serons déjà à 0h le 23 mai, sera donc demain rediffusée également à 14h. Donc ce soir et à 14h. Deux auditeurs se sont manifestés, l'un a fait une remarque, mais nous avons abordé ce sujet. Il était 12h30 et à 12h35 nous abordions le sujet. Israël n'a pas encore été évoqué dans vos commentaires. C'est troublant, dit-il. Mais nous avons abordé. Un autre auditeur, cette fois-ci, revient sur vos premiers propos, Monsieur Martin. Ne peut-on pas comparer Necker à messieurs Macron et Le Maire en coulant la France par des dépenses publiques abyssales et par conséquent des déficits budgétaires qui pousseront les Français à accepter les réformes programmées par les financiers et les lobbies internationaux ? Qui était vraiment monsieur Necker ? Comment est-il arrivé à ce poste auprès du roi ?
Alors, j'ai une anecdote à propos de Necker, c'est que Necker aimait beaucoup les viagers, les prêts en viagers.
D'accord.
Et il avait trouvé d'abord, c'est lui qui est le créateur de la caisse d'escompte. C'est-à-dire, il a mis dans la Banque de France, je veux dire, toutes les grandes fortunes de l'époque. C'est pour ça qu'il y a eu une telle bronca quand Louis XVI l'a mis dehors et qu'il s'est dépêché de le faire revenir. Mais surtout, Necker avait inventé un système de prêt à la France par des viagers. Et pour ça, il a été voir dans sa Suisse natale. Il a fait en sorte que les prêts en viagers lui soient faits par des petites jeunes paysannes robustes entre 7 et 10 ans d'âge. De ce qui fait, c'est que la France a remboursé pour certaines pendant 80 ou 90 ans ses prêts. Donc, on voit tout de suite l'intention de M. Necker et je ne suis pas du tout sûr que ni M. Macron ni M. Le Maire soient assez malins pour avoir inventé un système de cette nature pour, je dirais, tondre l'État français. Ils n'arriveront jamais à la cheville de Necker, à mon avis. Voilà.
Et d'autres messages ?
C'est tout pour l'instant.
Ah, voilà. Alors, donc, reprenons les trois hypothèses que vous évoquiez à l'heure. Et je crains que ce soit la troisième hypothèse qui soit mise en œuvre.
Celle de la frappe.
Oui.
Moi, je franchement, je ne le pense pas. Parce que si c'est ça, c'est la ruine certaine de tout le Moyen-Orient et c'est potentiellement la ruine des grandes fortunes américaines parce que, comme je l'ai dit, on va passer minuit au bal de Cendrillon et tout le monde va se retrouver en haillons. Donc, je pense pas. Qu'il ne va rien faire. Je pense qu'il ne va rien faire. Parce, d'abord, il est incapable de choisir entre ces différentes options qui sont toutes mauvaises. La moins mauvaise étant celle qui prenne sa pioche et qui sort de son trou qui rentre chez lui.
Il n'est pas capable de le faire. Par caractère, par déterminisme psychologique, il est incapable de faire ça.
Voilà, c'est ça. C'est la seule qui est bonne.
Mais c'est pour ça que je reviens toujours au
fait il va rien faire.
Que pour faire de la bonne prévision, il faut tenir compte de la psyché des acteurs.
Il faut qu'on arrive là maintenant, puisque je vois que ça avance un petit peu, avant de parler de la situation du monde globalement que tout ça décrit, au sommet.
Oui.
Il faut parler du sommet, puisque le sommet devait consacrer le retour de Trump à une situation d'équilibre où il lève la tête face à Xi. Et là,
on prend pas le chemin.
Ce qui s'est passé, moi, j'ai eu l'impression, quand Trump est sorti, que j'ai vu une baguette de pain enfarinée et Xi à côté avec la blouse du boulanger et les mains pleines de farine parce qu'il l'a roulé dans la farine de la première seconde à la dernière. Je crois qu'il n'y a jamais eu de sommet dans l'histoire des sommets où il se soit passé aussi peu de choses.
Voilà, Xi, c'est Louis XI aussi, lui.
Voilà, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Xi ? Certains disaient avant le sommet que Trump essaierait de lâcher un certain nombre de choses contre le fait que les
terres rares lui soient ouvertes, etc.
Oui, ou bien que Xi accepte de faire pression sur les Iraniens pour qu'ils soient plus souples.
Mais
d'abord, la première chose, c'est que ce que demandent les Iraniens, c'est en fait le rétablissement de leurs droits légitimes comme ceux de n'importe quel pays. Le droit d'avoir son enrichissement civil, le droit d'avoir son balistique, le droit de faire du commerce, le droit d'avoir des relations. Ils disent, c'est ce que ne cesse de dire Marandi à chacune de ses interventions. C'est-à-dire, nous avons le droit d'existence et de fonctionnement comme n'importe quel État.
Et puis en dehors de ça, si tord le poignet des Iraniens pour qu'ils entrent dans l'espace sous les fourches codines américaines, ça revient à dire qu'ils acceptent, que Xi accepte que l'Iran devienne une colonie américaine.
Oui, mais ça, ça ne sera jamais le cas. Et en plus, Laurent, il y a quand même quelque chose qui frappe, c'est que cette guerre n'est pas une guerre de l'Amérique contre l'Iran, c'est une guerre contre la Chine avec un proxy iranien.
C'est-à-dire
qu'ils sont les Iraniens et les Chinois sont cul et chemise dans cette affaire.
C'est pour ça que l'exil n'obligera jamais les Iraniens à se coucher.
Bah bien entendu, voilà. Ni à se coucher, ni je dirais à lâcher quoi que ce soit. Ouais. Moi j'ai dit avant le sommet que Xi allait lui faire un grand tralala sur la forme et que sur le fond, il allait le laisser se dépatouiller dans la piscine et se noyer. Ouais. C'est à Trump de choisir celle des options qu'il veut prendre.
Et donc,
autres vont surtout, ils ne vont rien faire
alors,
du tout.
Alors, comme il est incapable de choisir l'option consistant à partir la queue entre les jambes, il en est incapable. Hein. Beaucoup trop narcissique pour ça. Il reste la troisième.
Il reste celle de la frappe.
Ben voilà.
Ben écoute, il a déjà renoncé 3 ou 4 ou 5 fois à frapper.
Ben oui, mais c'est... Il y aura et le problème, c'est que le nombre de renoncements s'accumulant, il y a un moment où il ne peut plus renoncer.
Eh ben on va voir. C'est là que nous divergeons parfois dans nos analyses.
Jusque-là...
Je suis prêt à prendre un pari.
Jusque-là...
Moi, j'ai dit qu'il ne va pas refrapper.
Non, mais pour d'autres, paris...
Il ne pourra pas.
Je les avais plutôt gagnés. Hein.
pour l'instant, il n'y a pas eu de guerre mondiale. Hein.
Non, mais d'étape en étape, on s'en rapproche.
Je ne suis pas sûr.
En tout cas, là, je pense qu'il va taper. Alors, peut-être pas ce week-end, mais il va finir par taper.
On va voir. On va voir, parce qu'à chaque fois, il renonce 2 heures avant. Hein. Et la dernière fois qu'il l'a fait, il a même eu tellement peur des conditions de ce que ça pouvait provoquer qu'il a dit, et c'est là-dessus que les Iraniens donc c'était 2 heures avant, je vous rappelle, l'ultimatum où il avait dit la civilisation va retourner à l'âge de pierre. S'il y avait quelque chose qui préparait la frappe, c'était quand même ça, plus que tout. Et 2 heures avant... Il a dit que les 10 points iraniens étaient une bonne base de travail pour trouver une solution. Alors après, sa porte-parole a dit que non, pas du tout, etc. Mais c'est ce qu'il a écrit sur son... Donc ça veut dire j'accepte vos principes.
Oui, mais...
les Iraniens sont accrochés
il est
à ça depuis cette époque.
Il est retourné à la niche assez vite sous la pression... de l'IPAC, etc. Oui. Par deux fois, il a interrompu des négociations en tapant sans prévenir l'Iran. Par deux fois. Bon. Le marteau, il le manie. Il a manié deux fois le marteau. Il n'y a pas de raison qu'il ne le manie pas une troisième fois.
Ben, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de danger d'effondrement de l'économie du monde. Et la bombe atomique économique mondiale, c'est les Iraniens qui l'ont et pas les Américains.
Oui, mais seulement comme il ne comprend rien de ce qui se passe concernant l'Iran, il ne comprend rien.
Ben, c'est...
Il ne comprend strictement rien.
Je pense pour ma part qu'il est aussi soumis, c'est vrai qu'il est quelque part soumis à l'AIPAC et aux forces... pro-israélienne, mais il est également soumis d'une autre façon aux grands banquiers qui veulent bien l'appauvrissement du monde pour racheter ce qu'ils peuvent pas cher, mais qui veulent certainement pas la fin du bal de Cendrillon.
Comme le duc d'Orléans voulait bien faire tomber Louis XVI et donner des louis d'or aux émeutiers, mais il voulait pas aller sur l'échafaud non plus. C'est typiquement le même schéma.
On verra, cher Laurent.
Eh bien oui, prenons les paris.
Prenons les paris.
Et ça ne me réjouit pas. Hein.
Non, non,
mais... non, non, non.
Franchement,
non,
ça ne me réjouit
personne
pas.
Personne n'a la science infuse.
Non, 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 non.
Il s'imagine, Trump, que probablement en bousillant les centrales électriques de l'Iran et tout ce qui permet au peuple iranien de survivre, le régime va s'effondrer.
Oui, mais il est certain, parce que les Iraniens l'ont dit 10 fois, Quelle sera la réponse de l'Iran, l'Iran, ça sera la désertification du Moyen-Orient.
Oui. Oui.
Et ben, il s'est dit, je vendrais mieux mon pétrole de schiste, mon gaz de schiste.
Ben, il ne vendra pas son pétrole de schiste parce que toute l'économie mondiale s'effondrera parce qu'il manquera 20% de la production de plastique, de, etc. etc. C'est pas un calcul.
Non.
C'est la véritable guerre mondiale, mais économique.
Économique.
Et en général, ça conduit à la guerre mondiale tout court.
Il ne manque pas d'appel à Trump, de gens extrêmement puissants, Larry Fink et d'autres, pour lui dire fais jamais cette connerie, sinon on aura ta peau.
Voilà. Non. Mais alors, il faudrait qu'il s'en aille la queue entre les jambes.
Voilà.
Ça, il ne peut pas.
C'est
plus fort que lui, ça.
Est-ce que Napoléon voulait partir la queue entre les jambes?
Non, mais Napoléon,
jamais.
Jamais,
Laurent.
Il avait plus de marge
de
manœuvre.
Enfin, il avait un ego encore plus élevé que celui de Trump.
Mais Napoléon
Et pourtant, il est parti deux fois.
Oui, non, mais attends, il est parti, Napoléon, après avoir enfoncé
la... Si je mets la première avec la retraite de Russie.
Il est parti... après Waterloo, parce qu'il n'y avait plus le choix.
Avant l'île d'Elbe, il est parti aussi.
Oui.
Une première
fois. Puis il est revenu.
Il est revenu. Voilà. Tous ces hommes qui ont des grands égos, aucun ne veut partir.
Ben voilà.
Mais ils finissent par partir quand même.
Ben Trump.
Ou à se suicider.
Trump il finira peut-être destitué.
Alors, est-ce que tu as vu aussi que le Sénat a fait passer à 3 voix d'avance, qui sont 3 voix républicaines, une loi qui oblige l'État, qui oblige le gouvernement à demander l'accord du Sénat avant toute décision concernant cette guerre? C'est passé il y a 2 jours, ça.
Oui, alors...
Donc ça, c'est important. Donc, moi, j'ai pensé depuis le début qu'une façon des Larry Fink et des autres de l'empêcher de faire trop de bêtises, c'était de le ficeler comme les Lilliputiens à Gulliver. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ça va continuer. C'est-à-dire, ils vont l'invalider sans l'invalider. Ils ne vont pas le destituer, mais ils vont le ficeler. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Le problème, c'est que quand c'est à touche-touche comme ça au Moyen-Orient, les voies de fait sont faciles. Et on peut contourner les... C'est comme Roosevelt qui a acculé les Japonais en les privant du pétrole américain à l'époque où l'Amérique était une grande puissance, un grand producteur de pétrole, qui est redevenu par le pétrole de schiste. Et les Japonais... Quand ils ont attaqué les États-Unis à Pearl Harbor, sachant d'ailleurs que les services secrets américains lisaient à livre ouvert dans les codes japonais, ils savaient parfaitement que ça aurait lieu et ont fait sortir le porte-avions. Mais les Japonais, quand ils ont attaqué les Américains à Pearl Harbor, ils l'ont fait la mort dans l'âme. L'amiral Yamamoto, qui avait fait ses études aux États-Unis, etc., il avait dit... Les Américains sont un grand peuple. Pendant 1 an et demi, nous dominerons la situation. Et puis ensuite, ce géant va nous aplatir, Yamamoto. Et quand les Japonais ont attaqué les États-Unis, c'était la mort dans l'âme. C'est parce qu'ils étaient étranglés sur le plan énergétique.
Oui, parce que Roosevelt cherchait une façon de rentrer dans le conflit.
Oui.
Et qu'il n'osait pas prendre la décision tout seul, il lui fallait un casus belli, et
voilà.
Il l'a trouvé, provoqué.
Et ben, c'est toujours comme ça.
Comme Netanyahou a provoqué le 7 octobre le casus belli, comme Charlie Kirk l'a extraordinairement bien expliqué, en disant qu'il est absolument impossible que des hélicoptères qui normalement mettent 45 minutes à aller à Gaza depuis leur base, cette fois, aient mis 7 heures.
Oui.
Ça n'a pas de sens.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on a, on a désarmé l'extérieur de Gaza pour laisser les hordes, entre guillemets, sortir, parce qu'il fallait à Netanyahou un casier.
Et on a enterré les multiples rapports faits par les postes de surveillance le long de Gaza des jours et des jours et des jours avant.
Bien sûr.
On les a enterrés Alors que tous ces rapports disaient, mais il y a quelque chose en préparation, il y a des bulldozers, il y a des entraînements.
Il y a même un rapport qui a été fait et qui a été présenté par un fonctionnaire au cabinet de guerre israélien. Et Netanyahou a refusé le rapport et a viré le type.
Voilà. C'est-à-dire que la morale de l'histoire, c'est que quand un exécutif veut faire la guerre, il trouve toujours le moyen de la faire. Et il n'y a rien de plus facile que de mettre le feu.
Ben,
ce qui est beaucoup plus dur, c'est d'éteindre.
Comment ça s'appelle, la dépêche d'Ems,
c'est ça? De Bismarck, exactement. Voilà. Exactement.
Justement, quelques auditeurs interviennent là. Un auditeur nous dit ceci. Si Trump frappe une troisième fois, c'est effectivement le désastre planétaire.
Oui.
Ouais. On est tous d'accord là-dessus.
Oui, on est tous d'accord là-dessus.
Un intervenant, Jérôme, nous dit « Bonjour, nous ne sommes pas tous aux ordres de l'État d'Israël, dont l'objectif final est la destruction du régime iranien. » Bien cordialement.
On est bien d'accord.
Donc, voyez...
Oui, mais Trump, il est aux ordres, lui.
Oui, effectivement. Alors, il y a également un autre message qui est arrivé il y a déjà mon petit quart d'heure. Merci pour votre émission. Il me semble que l'on perd de vue dans ce conflit avec l'Iran l'impératif de solutionner la question de Gaza et du Hezbollah. Question cruciale dont on ne se rend compte qu'une solution militaire ne peut aboutir sans négociation de paix impliquant Israël avec la restitution des colonies de Cisjordanie.
Alors on est bien d'accord évidemment avec ça. Je vais répondre à cet auditeur, bien entendu. Mais c'est la raison pour laquelle les Iraniens ont voulu inclure la question du Liban et la question du Hezbollah dans la négociation américano-iranienne. Et ils ont dit qu'ils considéraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord de paix tant que, tant que la guerre n'était pas terminée. Et il faut dire à ce titre que, et ça je l'ai dit souvent, que la négociation qui a actuellement, la prétendue négociation de paix qui a lieu entre Netanyahou et le gouvernement libanais, dans la mesure où elle pose comme condition le désarmement du Hezbollah, dont tout le monde sait qu'il ne se fera pas, parce que l'armée libanaise n'existe pas et que ce n'est pas elle qui va désarmer le Hezbollah, c'est encore une fois comme si je demandais à la partie adverse, aux responsables de la partie adverse, que la condition première de la négociation, c'est qu'il me livre sa femme et ses enfants. Donc, dans la mesure où je sais parfaitement que cette condition est impossible et inaccessible, ça veut dire que je ne suis pas dans une négociation de paix, mais je suis dans une négociation de guerre inactive.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai gardé la dynamite, j'ai gardé la mèche, j'ai gardé l'allumage, et je me réserve la possibilité de rallumer la mèche à tout instant. Donc, ça ne s'appelle pas une négociation,
non.
Ça s'appelle un système de guerre de préparation. Et c'est la même chose qu'on a utilisée pendant des années lorsqu'on demandait depuis 2014 que la Crimée, que la Russie rende la Crimée, alors que la Crimée était russe et qu'elle a toujours été, si on considérait comme condition préalable que la Russie rende la Crimée avant de discuter de quoi que ce soit, depuis 2014, ça voulait dire qu'on ne cherchait pas la paix en aucune façon, mais on cherchait à prolonger la guerre par d'autres moyens. Ben, c'est exactement ce que fait Netanyahou. Il s'achète une période de, je dirais, une pause pendant Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, et ça je rejoins ce que Laurent dit aussi, c'est exactement ce que font aussi les Américains, puisque dans la réponse aux 10 points iraniens, ils ont posé 5 points, dont le premier, consiste à exiger que les 400 kilos d'uranium enrichi leur soient livrés à eux. Voilà. Ce dont ils sont persuadés à 1000% que les Iraniens ne le feront jamais.
C'est
donc ça
que...
veut dire, là je vais dans votre sens, que ce qui est présenté de leur part, c'est une condition de belligérance potentielle
voilà.
qui permet de laisser la porte ouverte
oui.
à une nouvelle escalade. Mais,
voilà.
et c'est là que nous divergeons, moi je ne suis pas sûr qu'ils la mettront en œuvre, alors que vous l'êtes.
Oui, en fonction de l'analyse psychologique de Trump et du fait qu'il est incapable de prendre ses pertes, de partir la queue entre les jambes, c'est en dehors de sa portée. C'est structurel, psychologiquement.
On verra. Alors, il reste un autre sujet
oui,
qu'on n'a pas abordé. Alors, allons-y, oui, questions. Parce
non, enfin, il y a de très nombreuses questions. Il y a un fidèle auditeur qui, d'ailleurs, a toujours des remarques très pertinentes, mais ouais. ses messages sont beaucoup trop longs. Par
d'accord.
contre, monsieur Martin,
hein.
je vous le transmettrai
ouais.
et vous pourrez prendre contact par l'adresse
qu'est-ce
électronique.
Qu'est-ce qu'il dit globalement vers... qu'est-ce qu'il dit
bah, C'est sur monsieur Trump, enfin, des choses qui sont tout à fait justiciables. Hein, son comportement y compris dans l'affaire Epstein, etc. Donc, je vous transmets ces messages
okay,
et chers auditeurs, sachez que M. Martin aura votre adresse électronique. Voilà. Un message de Michel, que nous saluons bien, un fidèle auditeur. Bonjour,
d'accord.
est-il exact que Trump se désintéresserait dorénavant du sort de Taïwan pour ménager Xi Jinping ?
Alors, il semble qu'il y ait eu des remarques de Trump dans ce sens-là. Dans la réalité, je pense, moi, que Taïwan est une fausse question. Je pense que c'est une fausse question parce que je n'imagine absolument pas que les Chinois iraient se jeter sur Taïwan dans la situation où ils sont aujourd'hui de la construction d'un système westphalien basé sur la paix, la diplomatie, les relations et le commerce.
Oui.
S'ils se jettent sur Taïwan, ils détruisent immédiatement leur image, alors que ce qu'ils essayent de faire passer... confère la négociation qu'ils ont menée entre l'Iran et l'Arabie saoudite pendant des années pour aboutir en 2003 à ce rapprochement, etc. Ils veulent se faire passer comme la future force politique
oui.
sage.
Sage, oui.
Parce
oui.
que le propre du leader, c'est la sagesse. Et je crois qu'on pouvait le dire aussi de personnalités aussi comme celles qu'on a citées.
Oui, tout à fait.
Les grandes personnalités de l'histoire veulent donner une image de sagesse, ce qui n'interdit pas la force, par ailleurs.
Oui.
Mais, donc, je ne les imagine pas faisant ça du tout. Par ailleurs, je rappelle et j'ai vérifié qu'aujourd'hui, Taïwan fait plus de 30% de son commerce extérieur avec la Chine.
Oui.
C'est-à-dire,
donc,
alors qu'on dit qu'ils sont en pleine belligérance potentielle, ils font 30% du commerce. Il est très facile pour les Chinois de mettre la révolution à Taïwan. Il suffit d'arrêter le commerce. Du jour au lendemain, le gouvernement de Taïwan tombe et c'est la révolution à Taïwan.
Oui.
Donc, avant de les attaquer militairement, ils ont 50 choses à faire pour les embêter et ils ne le font pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'on fait du commerce parce que ça, c'est premier et que pour les raisons d'image, parce qu'on prépare le centenaire de la révolution, etc., on fait semblant d'être très méchant, etc. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Donc, quand Xi, et je réponds donc à cette personne, lorsque Xi au début dit « Bon, mais l'histoire de Taïwan, ça nous regarde, c'est pas vous », c'est plus pour lui mettre, une petite baffe diplomatique en entrée de jeu, histoire de le calmer ou de lui faire perdre un peu la face. Mais je crois pas... Ils le disent, mais ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour
la Chine.
Par contre, si, semble-t-il, ils ont obtenu de la part des Américains une déclaration qui rend le soutien à Taïwan de la part des Américains moins impératif qu'il ne l'est auparavant, ça, c'est une victoire diplomatique pour eux. Ça, je le pense.
En voyant bien, d'ailleurs, la quadrature du cercle qu'il y a pour cet hégémone, cet empire américain vis-à-vis du Japon et des Philippines, notamment, et même du Vietnam.
Et de la Corée.
Et de la Corée du Sud.
Bien sûr, ben bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est plus, ce problème de Taïwan est plus un problème pour les Américains qu'un problème pour les Chinois. Oui.
Voilà. Alors, le temps passe, il y a d'autres messages. Il reste 11 minutes.
Un message de Jérôme à nouveau. Bonjour, quand on voit les événements au Moyen-Orient ces 10 dernières années, on voit la trace de l'État d'Israël, directement ou pas, derrière toutes ces opérations. L'objectif pour les Israéliens n'est-il pas de créer la grande Israël de la Méditerranée à l'Euphrate ?
Ah oui, bien sûr, ça on le sait très bien. Et aujourd'hui, je dirais qu'un des mérites de ces guerres récentes, y compris celle de Gaza, ça a été de... En fait, la stratégie israélienne était très, très bien montée, très intelligente. Ça consistait à cacher derrière un discours victimaire issu de la Shoah, en fait, une stratégie de prédation permanente qui a duré depuis la Nakba, depuis la colonisation qui dure, même pendant les périodes de paix. Si on regarde la courbe de la colonisation, elle est rectiligne. Oui. Rectiligne, donc ça ne s'est jamais arrêté. Et le discours victimaire cachait la prédation. Or, Netanyahou a fait l'erreur, à mon avis, magistrale, mais absolument magistrale, d'avoir détruit le discours victimaire et le crédit victimaire de façon à laisser aujourd'hui apparaître aux yeux du monde entier, sauf ceux qui ne veulent vraiment pas le voir, la réalité de la nature du pouvoir israélien. Voilà. Et les deux conséquences, à mon avis, les plus gigantesques de ça, la première, c'est que les Juifs sont en train de se retourner contre les sionistes, je dirais, et cette fracture entre judaïsme et sionisme est de plus en plus marquée. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Juifs américains en particulier. Et la deuxième, c'est la perte d'importance aujourd'hui, la baisse de la popularité d'Israël aux yeux de l'opinion américaine et en particulier des jeunes, des classes. Donc il y a deux fractures. Il y a celle entre les Israélites et les sionistes, qui en est une, et il y en a une deuxième entre l'opinion américaine et les sionistes. Donc ça, c'est très important. Et ça, je dirais que, à mon avis, Netanyahou, en faisant ça, il a détruit l'État d'Israël, je pense.
Oui,
enfin,
oui,
il en a détruit la politique,
la politique,
en tout cas.
La politique,
et ça va être, si, comme je le pense, moi, il peut y avoir une solution au conflit irano-américain qui ne peut être qu'une défaite en rase campagne du camp américain et un basculement du Moyen-Orient dans les bras de la Chine, Israël va être le premier pays qui va en souffrir énormément parce que sa justification de gendarme n'existera plus et sa politique de prédation ne fonctionnera plus non plus. Et par ailleurs, les États-Unis, nouvelle administration demain, cesseront de payer pour quelque chose qui ne leur sert à rien. Donc, ça veut dire qu'il y aura besoin d'une métamorphose complète sur le plan de la politique, etc., de l'État d'Israël, dont je ne sais pas si l'État d'Israël est capable de la faire. Mais on voit que c'est pour ça, à mon avis, que Netanyahou s'accroche comme un malade à cette guerre qui est aussi sa défaite.
Oui, je comprends.
Voilà.
Écoutez, là, justement, monsieur téléphonique, vous avez répondu, on n'insiste pas assez sur la mission de Trump à Netanyahou. Trump est une marionnette face à Israël qui veut en faire dominer le monde.
Bon, c'est plus compliqué que ça.
Oui.
On a essayé d'expliquer.
Voilà. Écoutez, il y a de très nombreux messages qui sont arrivés. On ne pourra pas tous les lire parce qu'ils sont beaucoup trop longs.
Commençons.
Alors oui, une personne passionnante, émission très originale où sont convoqués Trump, Poutine et Louis XI, ce qui n'arrive pas tous les jours, même sur Radio Courtoisie. Sur le fond, l'accord est profond sur une vision chrétienne et conservatrice de la situation internationale. Les meilleures épicions opposent des interlocuteurs d'accord sur presque tout. Bravo. Voilà.
Merci.
Donc, Jacques, merci beaucoup. Encore cet auditeur qui a toujours ses remarques. Chers auditeurs, les messages écrits seront communiqués, seront donnés à M. Martin qui pourra prendre contact avec vous dans la mesure D'accord. où il possédera vos adresses
mais on
internet.
Peut quand même en lire. Si
finissons parce qu'il faut nous laisser quelques mots pour conclure parce qu'on n'a pas parlé de la situation du monde aujourd'hui,
oui.
de l'après-sommet, c'est fondamental.
Oui. La guerre contre la Chine est complexe car les deux économies étaient fortement liées, la Chine achetant les bons du trésor américain, au moins jusqu'à l'affaire du Covid, qui comme par hasard a frappé la Chine à Wuhan, le cœur de son industrie et nœud central de communication. La suite de la guerre en Ukraine, où la Russie a dû réagir en urgence à une menace d'attaque sur le Donbass, a la preuve absolue étant à la fois les 300 milliards laissés dans les banques occidentales et les révélations de Merkel et Hollande sur les accords de Minsk.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc,
quelques mots pour finir, parce que là, il nous reste 5 minutes.
Oui. Ben, c'est pour ça. Ce qui est sorti de ce sommet... pour moi, et le sommet ensuite, alors, où tout le monde est reparti, je dirais Trump et ses oligarques sont repartis la queue entre les jambes, sans avoir rien obtenu des Chinois, qui les ont laissés en gros se dépatouiller. Et une semaine après, ou trois jours après, arrive Poutine, qui signe 200 ou 300 accords. Donc, si c'est à la fois, je dirais, une perte de face totale pour Trump, très, très bien construite, avec beaucoup de forme et zéro fond, et en même temps, une passation de pouvoir et un basculement total. Aujourd'hui, je crois que ce qui ressort, et de cette guerre qui n'est pas terminée, et de ce sommet, c'est véritablement un basculement du monde en faveur de la Chine. C'est-à-dire, si la Chine s'était un peu cachée derrière les BRICS jusqu'à présent, si on avait regardé surtout la Russie, on se rend bien compte que le maître aujourd'hui, c'est la Chine. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que si on veut réfléchir à l'avenir, il faut se demander, et je pense que c'est la question importante que personne ne se pose et qu'il faut se poser, c'est que est-ce que demain... à la place d'une domination américaine, est-ce qu'on veut une domination chinoise sur le monde ? Parce que c'est ça qui est déjà écrit dans les astres. Moi, je ne suis pas sûr du tout.
Oui,
mais moi, ce que je veux, c'est que cet effondrement de la puissance américaine se traduise par une libération des possibilités européennes, et en particulier de celles de la France, mais certainement pas... après que je sois obligé d'aller acheter les terres rares à la Chine, mon industrie à la Chine, mon commerce à la Chine, l'Afrique à la Chine, le Moyen-Orient à la Chine, c'est pas ça que je souhaite pour mon pays.
Bien sûr.
Voilà.
Et on voit bien l'impact de la Chine, même puisque une usine va être créée en Bretagne, je crois, qui permettra la construction de véhicules électriques chinois en France.
Ben voilà.
Oui, eh bien écoutez, cher François Martin, ce sera quasiment la conclusion. Je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que François Martin a commis, après trois autres livres, un quatrième livre, hein, c'est le quatrième.
C'est le troisième.
C'est le troisième.
Oui. La France dans le chaos du monde.
La France dans le chaos du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy, paru en février dernier.
Voilà, c'est ça, en février, et il y aura une suite, puisque c'est deux tomes en fait. Ça, c'est plutôt le chaos du monde, et alors le dernier, sera la deuxième partie, ça sera « Et la France dans tout ça », en fait. Il paraîtra début de l'année prochaine.
Janvier-février de l'année prochaine.
Voilà, 2027.
Il se sera passé beaucoup de choses. Hein,
bah oui. Donc il faudra que je reprenne déjà, parce que j'avais voulu faire deux parties. La première partie, le chaos du monde, c'est celui qui vient de sortir. Mais comme c'était juste avant la guerre d'Iran, il y a presque un livre nouveau à écrire sur les conséquences de la guerre d'Iran. Donc on verra.
Ouais, voilà. Et donc si je gagne, hélas, mon pari, c'est-à-dire que Trump à nouveau tape sur l'Iran avec son gros marteau,
voilà.
Eh bien, les conséquences économiques financières vont s'enchaîner d'une manière plutôt brutale.
C'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup d'auditeurs qui nous l'ont témoigné par leur message.
Exactement. Ouais. Et je souhaite perdre mon pari.
Bon ben,
je serai bon perdant.
On va refixer à une prochaine.
Oui.
Je viendrai avec la corde au cou
Voilà. Ben, nous pouvons remercier Martine de la prise de très très nombreux messages. Chers auditeurs, encore une fois, nous n'avons pas pu tous les lire et surtout vos commentaires sont très intéressants, sont communiqués, donc, mais nous n'avons pas le temps matériel de les lire au cours de cette émission.
Mais l'invité les a tous en main.
Absolument. Merci à Martine et merci à Virginie également pour la réalisation de cette émission.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, à bientôt.
Le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, assisté d'Éric. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 22 mai 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.